Imaginez-vous que vous êtes né un 27 novembre 1829 et que vous avez la chance de faire partie d'une grande famille. Vous êtes genevois, bien sûr, et vous faites partie de ces gens qui ont déjà une histoire avant leur naissance et qui, dans leur berceau, vont savoir qu'un grand-père a déjà peut-être connu des cimes blanches et gravi, par exemple, le sommet du Mont Blanc. Et que vous avez aussi un oncle qui, lui, fait partie de cette intelligentsia de Genève. Il s'appelle Nicolas Théodore, mais il connaît les Candolles, les Pictets, les de la Rive, les Tremblay. Enfin, vous avez déjà compris que nous sommes dans un milieu bien particulier. Vous êtes à Genève, vous êtes au début du 19e siècle, et on lit beaucoup, on étudie énormément, on a peut-être envie aussi de voyager, et il y a comme ça, tout à coup, après quelques années, des études prolongées, qu'on partagera en compagnie de Louis Droguin et Claude Weber, il y a tout à coup une petite envie qui commence à partir de certaines lectures, celle d'un baron, le baron de Humboldt par exemple, qui vous donne envie d'aller découvrir des terres tropicales, des terres exotiques, et surtout d'être celui qui sera un nouveau naturaliste, quelqu'un qui aura envie d'écrire, de découvrir, mais de découvrir un pays qui chantait déjà de façon très curieuse depuis le XVIe siècle. Oh, on n'en savait pas grand-chose, mais découvrir le Mexique comme cela, aux alentours de 1854-1855, c'est une aventure. Mais auparavant, nous allons tenter de découvrir qui est cet homme. Il s'appelle Henri, et vous découvrirez qu'il fait partie de la famille de Saussure. Claude Weber, si vous étiez né un 27 novembre 1829 comme Henri de Saussure, est-ce que vous auriez eu autant de chance que lui ? Est-ce que vous auriez eu, grâce à sa famille, grâce à ce milieu, la possibilité de devenir, comme vous l'êtes, un naturaliste ?
Certainement. Henri de Saussure a été entouré d'oiseaux empaillés, d'échantillons de minéraux. Il est allé visiter le Mont Blanc, enfin surtout, il a accompagné son grand-père, il a vu des scientifiques fabuleux pour l'époque. Il faut s'imaginer que cette Genève du 19e siècle était au niveau scientifique extraordinaire. Vous aviez Candolle qui, en botanique, faisait des descriptions fabuleuses avec Redouté comme peintre. Vous aviez aussi des Tremblay, des Plantamour qui avaient une connaissance du lac, qui faisaient les premières études de l'hymnographie. Enfin, tout ce contexte a fait que c'était naturel chez lui. On ne devient pas naturaliste. On est
naturaliste. En l'occurrence, quand on a fait des instituts, des études comme lui, il est allé d'abord près de Berne, je crois.
À Fellenberg,
oui.
Comme son frère, d'ailleurs. C'est un institut où on envoyait les enfants à l'époque pour se parfaire dans la langue allemande, qu'il maîtrisait après de façon remarquable.
C'était important dans la mesure où tout de même, ce 19e siècle allemand est aussi un siècle extraordinaire au point de vue découverte, j'entends, puisque nous allons nous diriger du côté du Mexique. Il est vrai qu'on est étonné de voir à quel point, peut-être pour des raisons linguistiques, peut-être pour des raisons, je dirais, théoriques aussi, une façon extrêmement rigide de voir les choses, l'allemand était beaucoup plus préparé, et l'allemand préparait justement à une meilleure classification, une meilleure étude. Il y a quand même une rigueur allemande qui se ressent chez le Saussure.
Là, on en arrive à Humboldt, qui était un peu son idole, son maître à penser.
Quand on parle d'Alexandre de Humboldt, on imagine immédiatement des voyages incroyables dans des lieux qui étaient encore des lieux coloniaux. C'est-à-dire qu'il faut quand même situer un peu l'histoire. En 1810, en 1821 ou plus tard, l'ensemble de l'Amérique latine perd l'Espagne ou l'Espagne perd l'Amérique latine. Et Humboldt a quand même eu le privilège de rencontrer des gens qui faisaient partie à la fois d'une espèce de cour. Il y avait encore un vice-roi, il y avait encore une liaison directe avec l'Espagne. Humboldt était un noble.
Oui, il était un noble allemand, mais ce que vous dites se vérifie dans une certaine mesure, parce qu'il a quand même fait le trajet de l'Équateur jusqu'au Mexique. Il est allé où personne n'était allé auparavant.
C'était un pionnier.
Il était à la recherche des sources de l'Amazone, le Rento, comme il appelle ça, comme il en parle dans ses lettres à Henri de Saussure. Et en fait, son, disons, la partie mexicaine de son périple est un peu la partie confortable du voyage.
Il était reçu par Touesla dans les lettres d'Henri de Saussure que vous avez, je dirais, travaillé, lu, copié, photocopié, vous et Louis de Roguin. Vous avez réussi, grâce à ces lignes, à vous rendre compte à quel point, dans son, vous l'avez intitulé « Voyage aux Antilles et au Mexique » entre 1854 et 1856, dans cet énorme ouvrage, parce qu'il ressemble plutôt à un dictionnaire par son format, mais il se lit par contre comme un roman policier, comme un roman tout court, comme un roman scientifique, bien sûr. Mais c'est quelque chose de très intime, en définitive. Là, ce sont des lettres, et la couverture est déjà très intéressante, puisqu'en fait, on remarque que Henri de Saussure, lors de son voyage, va écrire dans les deux sens. Je m'explique, c'est-à-dire il a une écriture noire extrêmement fine et précise, et tout à coup, dans l'autre sens, on a une écriture qui est faite en couleur sépia et qui lui permet d'économiser le papier.
Là, il s'agit d'une coïncidence. En fait, ces lettres sont souvent écrites en croisé, comme dit, mais... De la même couleur. Là, il a une panne d'encre.
Une panne d'encre, il a dû changer de couleur.
Il a dû chercher un autre plumier, et il a repris sa lettre.
Sur un plan technique, je me suis justement posé la question, quand vous tombez devant plusieurs kilos de documents, Louis de Roguin, et que vous avez un ensemble de lettres comme ça qui vous sont données, qui vous sont prêtées, comment est-ce qu'on commence la recherche sur un personnage comme Henri de Saussure pour connaître son intimité de voyage, ce côté journal de voyage que vous nous avez fourni après tant d'années? Comment est-ce qu'on commence, sur le plan bêtement technique, à étudier cela?
Le premier pas, c'était la découverte de ces manuscrits à la BPU, donc la bibliothèque à l'université.
Ici à Genève, bien sûr.
Ici à Genève. Mm-hmm. Et le second pas, c'était de déchiffrer ces lettres. Nous avons donc procédé par la photocopie et déchiffré à la loupe pour certains passages.
Est-ce qu'il a une écriture facile? Il a une très belle écriture, mais est-ce qu'elle était facile à retrouver, j'entends, à relire? Il y a un langage d'époque aussi.
Il y a le problème du langage ne se pose pas. Le langage n'est pas très différent d'une autre. En revanche, c'est l'écriture qui peut varier beaucoup en fonction des conditions dans lesquelles il a pu écrire.
Donnez-moi un moment de condition qui vous paraît impossible, même si on fait un saut dans le temps, qu'on est déjà en voyage. Parce qu'en fait, ce sont des lettres qu'il a envoyées déjà depuis l'Angleterre, et puis ensuite aux Antilles, et ensuite au Mexique. Alors, quel sera un moment de condition qui vous paraît tout à fait impossible et qui se marque sur le papier? Je veux dire par là, quand tout à coup il est dans un campement impossible et qu'il est sous la pluie, c'est vrai qu'écrire une lettre dans des conditions pareilles... Est-ce que c'est quelqu'un qui écrivait tous les jours, d'abord?
Oui, donc, quasiment tous les jours, et... évidemment, il n'avait pas toujours de table et de sous-mains à disposition. Il devait s'agripper à une caisse et puis s'installer comme il pouvait.
Est-ce qu'il a souvent dormi dans les campements? Est-ce qu'on a vraiment cette image comme on l'a pour la Grande Afrique, comme on l'a pour Humboldt, dont on parlait tout à l'heure, lorsqu'il était dans les terres les plus impossibles d'Amérique du Sud?
Il s'efforçait toujours de trouver un gîte quand même pour la nuit. Il s'adressait à des propriétaires, chez des privés. Il entrait de force chez eux s'il le fallait pour s'arrêter.
Carrément de plein pied.
Oui, même à cheval dans le salon. Mm-hmm. Et à d'autres occasions, alors il trouvait refuge dans des monastères.
Pour préparer un voyage comme celui-ci, il a fait des études à la Sorbonne en 1852. Il est allé en 1854, donc juste avant son voyage. Je crois qu'il a reçu un doctorat le 29 juin 1854. Ça, c'était en Allemagne. C'était surtout sur le plan philosophique. Mais est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, il se préparait déjà, Claude Weber, est-ce que vous pensez qu'il avait déjà structuré son idée de partir si loin comme naturaliste et de resuivre un parcours qui était celui de Humboldt, en l'occurrence?
Absolument. Il est allé directement s'adresser à Humboldt pour savoir où fallait-il aller. Il s'intéressait beaucoup aux volcans du Mexique. Et Humboldt avait fait un premier voyage, dans son premier voyage, avait fait une étude particulière sur les volcans.
Et il les avait même égrenés les uns après les autres en nous donnant leur forme d'activité et leur importance.
Exactement. Et le fait est que Humboldt était très très content d'avoir un jeune chercheur qui soit enthousiaste et prêt à revoir ce qu'il avait vu et à confirmer ou à infirmer les théories de soulèvement, qui sont des théories qui actuellement sont complètement...
Vérifiées.
Oui, c'est fini. Non, elles sont...
Elles sont nulles aujourd'hui.
Elles sont nulles aujourd'hui.
Je vous avais mal compris. Là, vous parlez de soulèvement par rapport à la couche,
voilà,
à la croûte terrestre.
En fait, c'est par recouvrement que le volcan se forme, avec la lave qui surgit, qui recouvre d'autres coulées de lave. Mais à l'époque, on se posait la question, c'était la théorie des lits de Beaumont, des talus latéraux, des volcans, et en fait, il fallait maintenant trouver des preuves.
Est-ce que vous pensez qu'une conversation comme celle que nous avons, qui n'est pas forcément audible pour tout le monde, était une conversation comme on aurait entre Humboldt et de Saussure? Est-ce que ces gens-là se sont rencontrés dans ce genre de conditions? Est-ce qu'il y avait une condescendance aussi?
Oui, ils ne se sont pas rencontrés, mais il y avait une relation épistolaire, mais ils ne traitaient que de ça, en fait.
Oui, je parlais bien des lettres, mais il n'y avait que des questions comme celle-là qui se posaient en aller et retour.
Absolument. Disons, il y avait une espèce de sentiment de père spirituel de la part de Humboldt. Il s'imaginait qu'Henri de Saussure était un petit peu était son successeur dans le domaine de la volcanologie.
Quelle était l'allure d'Henri de Saussure au moment où il écrivait ses lettres? C'est-à-dire au moment où il va démarrer dans sa tête pour ce grand voyage en 1854, par exemple. Quelle était son allure physique? Parce qu'au dos de votre ouvrage, on le retrouve avec une fine barbe très bien taillée, avec le cheveu assez léger, avec un front très dégarni. Il a un nez très marqué. Il a surtout ce regard assez étrange et très fixe, comme ça. Quelqu'un de très perspicace, quelqu'un de très précis. Et il a aussi, dans son habillement, une allure qui n'est non seulement d'époque, mais qui donne, par le dessin qui est fourni, l'impression de quelqu'un qui est très droit, qui est très fort, qui est très grand, qui a des qualités qui sont peu communes et qui le prépare à une telle expédition. Est-ce vrai?
Absolument. D'ailleurs, ce portrait retrace tout à fait son caractère. C'est un portrait qui est dû au crayon de son fils Horace. Et déjà très jeune, à l'époque de son voyage, Henri de Saussure, qui avait 24 ans à ce moment-là, était très rigide de caractère, très déterminé dans ses opinions, et intraitable souvent avec les autres, mais avec lui-même aussi. Il ne se laissait jamais aller à la moindre fantaisie ou à la moindre liberté.
Louis Droguin, Claude Weber, est-ce que vous pourriez avoir Henri de Saussure comme ascendant, comme quelqu'un qui vous enverrait faire une expédition au Mexique? Est-ce que vous l'accepteriez comme directeur, par exemple, de votre propre musée d'histoire naturelle? Est-ce que vous pourriez vous entendre avec Henri de Saussure après l'avoir lu, puisqu'en fait vous n'avez jamais fait son expédition, vous ne connaissez pas le pays que nous allons découvrir grâce à lui et à travers lui, mais est-ce que vous pensez qu'ici à Genève, quelqu'un comme ça pourrait vous donner le virus après être rentré, comme Humboldt l'a fait pour lui?
Je pense qu'il pourrait tout à fait nous donner le goût du voyage, en tout cas, avec ses descriptions tout à fait pittoresques de situations extraordinaires. Il nous donne aussi le goût du manque de confort, enfin, il nous prévient des conditions très dures de voyage, aussi bien dans la vie tous les jours, les repas, souvent il avait presque rien à manger. Il a aussi été victime des fièvres, de la fièvre jaune.
Après 9 jours, comme il dit, passe sans trop de problèmes. Oui. Vous avez tous les deux les yeux qui s'allument lorsqu'on pense déjà à cet autre continent, lorsqu'on est parti. Si nous partions ensemble, voir un peu comment d'abord on embarque et ensuite comment on arrive lentement, très lentement, par la mer, avec une goélette jusqu'au Mexique. De fêter votre anniversaire, vous êtes au mois de novembre, et le 30 novembre 1954, vous avez 25 ans, vous écrivez votre première lettre depuis Southampton, et vous l'envoyez en Suisse. Ce journal intime n'était pas fait pour être publié en définitive, et j'avoue que dans les premiers souvenirs de voyage de Saussure, il y a cette obligation de traverser ce qu'on appelle encore le canal, c'est-à-dire la Manche. Et on a tous, si on a été un jour en Angleterre par voie maritime, des souvenirs comme on les a par exemple exemple, lorsqu'on va en Grèce. Enfin, il y a des lieux comme ça où systématiquement, on se prend pour le capitaine Haddock et on décrit les pires souvenirs de tempête. Claude Weber, est-ce que vous auriez supporté de prendre le bateau pour aller du côté de l'Angleterre et finalement rester trop longtemps du côté de la France, comme l'a fait Henri de Saussure ?
En tout cas, pour ma part, je ne sais pas, mais pour Henri de Saussure, ça a été une épreuve, l'épreuve du feu, pratiquement.
Et de l'eau.
Une tempête effroyable, un voyage nocturne avec l'espoir d'arriver au port là, au petit matin, et alors que le bateau n'avait pas encore quitté les côtes françaises, pratiquement un cauchemar pour lui. Un cauchemar qui en fin de compte, l'a tout de suite mis en condition, parce que le reste du voyage n'a pas été facile non plus.
Donc il s'est préparé déjà à la difficulté, il n'était pas seul d'ailleurs. Il y avait d'autres compagnons qu'il avait choisis.
Absolument, il avait choisi un compagnon un peu plus fortuné que lui, Henri Perrault.
Qui était jeune d'ailleurs.
Qui avait 20 ans et qui en fait était prêt à partir au Mexique, je dirais pas les yeux fermés, mais quasiment sans trop savoir où il allait, alors qu'Henri de Saussure, lui, savait très bien ce qu'il allait faire. Il a engagé un naturaliste vaudois, François Sumicrast, et il est parti avec le jardinier de la famille, Marc Grosjean, fils du charcutier de Morges.
Marc Grosjean, qui était jardinier des deux Saussures chez eux. C'est assez sympathique aussi, cette relation avec quelqu'un qui travaille la terre en se disant, tiens, il peut nous accompagner, faire ce grand voyage. Et quand on voit leurs âges, c'est assez intéressant de voir que toute l'équipe a moins de, je crois, de 26 ans. Peut-être que le jardinier est un peu plus âgé.
L'âge de Marc, malheureusement, nous n'avons pas.
Vous ne l'avez pas. Mais le naturaliste vaudois, François, avait 26 ans. Alors ça touche aussi de penser que tous ces gens-là vont revenir à l'âge de 28 ou de 27 ans comme Henri de Saussure. C'est-à-dire, on a l'impression que pour l'époque, c'est quand même extrêmement, extrêmement jeune. C'est une équipe très juvénile.
Il est totalement conscient que le voyage était fait par une bande de gamins. Il le dit lui-même dans son livre. Et lorsqu'il rencontre plus tard au Mexique le dénommé Becker, qui sera très célèbre par ses acquisitions de codex et d'antiquités mexicaines, il se retrouve toute une équipe à faire la fête.
Quand vous dites codex, vous dites ces écrits anciens, ces manuscrits de l'époque précolombienne qui se plient en accordéon ou éventuellement comme des draps de castille quand c'était des lienzos. Mais quand vous dites faire la fête au Mexique, c'est quelque chose qui trouble quand on lit l'ouvrage et on a envie de s'y plonger un peu. C'est un livre de chevet en fait, c'est quelque chose un peu abutiné comme son propre journal ou comme le journal qu'on recevrait de quelqu'un.
Le voyage a été fait dans un but scientifique et sérieux, mais de temps en temps, il faut ouvrir la vanne. Et là, ça a été une petite fête, champagne, et puis le piano mécanique à l'endroit, la Norma, et puis à l'envers, parce qu'on voulait écouter la Norma.
C'est pas plus mal d'écouter la Norma à l'envers. C'est vrai qu'on a plus de peine à le faire avec un CD aujourd'hui. Louis de Reguin, si vous étiez de l'équipe de ce voyage, Est-ce que vous auriez, comme quand on est jeune, j'ai abordé le Mexique à 20 ans, exactement comme Henri de Saussure, la première image qui nous vient en tête quand on aborde par exemple aux Antilles tout d'abord, parce qu'on doit y passer, moi je crois que j'ai mis deux mois et demi avant d'arriver au Mexique par bateau, en bourlinguant un peu dans toutes les îles et jusqu'au nord de l'Amérique du Sud. Quand on arrive par exemple dans une petite île comme Saint-Thomas, il y a des choses, quand on est si jeune, que l'on n'a jamais vues et on sait que c'est totalement exotique. C'est-à-dire, ça paraît idiot quand on connaît parfaitement le Léman, qu'on connaît parfaitement le Mont-Blanc, comme le disait tout à l'heure Claude Weber, et qu'on a vécu avec cette famille, qui était quand même une famille canne à la main, bâton à la main, des gens qui sortaient, qui bougeaient beaucoup, qui connaissaient la nature. Comment est-ce qu'on peut être étonné comme cela, simplement par un coucher de soleil? C'est un passage qui m'a beaucoup touché dans les descriptions de Saussure, son arrivée, enfin son départ plutôt de Saint-Thomas, où il est arrivé en pleine journée, et il repart comme cela en début de soirée. Comment est-ce que vous assimilez la lecture d'un texte? On est à bord du Paraná, je peux peut-être juste vous le résumer puisque je l'ai sous les yeux. Et il y a ce... Ça, en général, sur les bateaux, il y a soit une grosse cloche, soit à l'ancienne, un canon. Un canon qui vous annonce que vous devez remonter à bord et que le repas, et là, de Saussure nous dit carrément qu'il est détestable, le repas est servi. Et finalement, quand... Vous avez découvert un endroit comme cela. Saint Thomas aujourd'hui a beaucoup changé, mais enfin, il y a quand même des aspects dans les îles qui restent. On ressent aussi un peu le journal de Christophe Colomb, cette première attitude que l'on a face à l'exotisme et aux tropiques. Et il est arrivé le matin, il repartait donc au soleil couchant, et il imagine cette ville un peu comme des pyramides. Vous savez, ces formes un peu coniques qui s'étalent sur le bas des îles qui montent assez vite vers les sommets, les forêts verdoyante. Il y a ce brillant aussi du vert qu'on voit encore juste avant le coucher du soleil. Et puis il y a la mer. Une mer qu'il compare à quelque chose de bleu, de très tranquille. Et là, chaque fois, Henri de Saussure nous ramène à son Léman, parce qu'il a souvent à Genève regardé des couchers de soleil. Il a vu les Alpes et les montagnes changer de teinte. Et ce qui l'a touché, c'était surtout cette verdure et puis les reflets qui se reprennent dans cette eau. Et finalement, il a une pensée que je trouve très belle. Vous évoquiez tout à l'heure le dessin de son fils pour son portrait. Lui-même a sans arrêt, durant ce voyage, esquissé des petits motifs, soit scientifiques, soit d'observation. Et là, il rêve d'avoir un crayon meilleur. Et en fait, il imagine le grand peintre qui serait là devant ce spectacle. Vous y êtes, la ville se détache maintenant avec netteté. Il y a cette couleur sombre qui commence à prendre, à ronger le paysage. Les palétuviers sont devenus presque noirs. Il y a un effet assez étonnant. Et il compare cela à ce qu'on ressentait quand on était moderne, c'est-à-dire ce qu'on voit à travers une grande lanterne magique. Vous avez déjà rêvé chez votre grand-père devant une lanterne magique. Et sous les tropiques, ce qui l'a touché, c'est cette nuit qui succède immédiatement au jour, comme si le rideau était tiré d'un seul coup sans transition. Et il voit cette rade qu'il a peut-être un peu de peine à quitter parce que le spectacle est trop beau. Et la montagne est devenue comme une silhouette toute simple. Là, on fait déjà du papier découpé, elle est noire. Et immédiatement, il y a le changement du ciel qui devient brillant, mais un brillant extraordinaire qui maintenant est sillonné. Il dit même qu'il est sillonné d'étoiles filantes. Là, on sent le côté tropical, on sent cette chaleur. Des choses qu'on ne peut pas voir en Suisse, et il le répète sans arrêt. Et finalement, il voit des constellations, des petits points brillants dans l'espace qu'il n'a jamais vu chez lui non plus. Et il admire aussi l'éclairage, cette espèce de pyramide de lampions qui se reflète dans la mer, c'est des coupures noires, et les vaisseaux qui sont là devant lui, dans ce petit port, il dessine comme des scintillements à l'arrière, comme s'il y avait des étincelles qui sortaient les unes après les autres à l'arrière de ces canaux. Il y a des noirs, des nègres, comme il dit, qui sillonnent la rade et qui soulèvent à chaque coup de rame une écume. Mais ça n'est pas n'importe quelle écume, elle est vraiment lumineuse, elle retombe en gouttes de feu. Et le sillage des vaisseaux laisse une trace comme du phosphore. Vous avez déjà vu ce phosphore qui scintille la nuit. Et le Paraná, il est maintenant baigné dans ce nuage de phosphore. Il y a des petits navires partout, on profite de la brise, et on se dirige lentement vers la mer, on salue encore d'un coup de canon. Juste lorsqu'on va défiler devant le fort, vous voyez là la silhouette du phare, et vous partez, vous avancez, vous glissez dans comme si vous alliez rejoindre l'infini, et puis il y a un éclair, le dernier éclair, mais vous n'entendez pas encore le son. C'est le dernier coup de canon, le dernier salut. Un petit vent, des noirs qui descendent comme cela, les uns derrière les autres, sur ces bateaux. Et finalement, derrière les montagnes, l'impression que tout s'éteint. Là, il dit simplement que les paroles sont vaines, qu'il faut être là, à Saint-Thomas, ce jour-là. Thank you. de regard, je vous ai abandonné sur le bastingage et je vous regardais observer ce ciel et ses brillances étranges, ses noirs et ses lumières. Quand on évoque un endroit qu'on ne connaît pas comme cela, et quand on se met à la place d'Henri de Saussure, et que maintenant on imagine ce même bateau ou un autre qui continue depuis Saint-Thomas, et qui après avoir effleuré les Antilles, va découvrir Veracruz. Comment est-ce que vous voyez vous-même, je dirais, la première image d'horizon à travers de Saussure? Comment est-ce que vous imagineriez cette arrivée vers ces terres inconnues? Comment est-ce que vous voyez le paysage? Et puis ensuite, je vous le corrige, si vous le voulez.
Je crois que l'impression d'Henri de Saussure était une attente fébrile de découvrir ce Mexique. Il avait tellement bien préparé son voyage, tellement lu, tellement appris de choses par des contacts personnels qu'il avait pu avoir pendant la première partie de son voyage, qu'il était vraiment fébrile de découvrir cette terre comme une terre promise. Il a découvert Veracruz comme une terre miraculeuse, beaucoup plus belle que les Antilles, plus propre, plus civilisée. Avec encore des témoignages de la grandeur de la période espagnole et ces descriptions de monuments, de la végétation même assez rare dans les environs de la ville. Il a vraiment le pinceau du peintre dans la main.
Comme on aurait une caméra aujourd'hui.
Voilà, exactement.
Parce qu'en fait, on a toujours l'impression, en lisant ces lignes, qu'il nous manque cela, c'est-à-dire ce support à la fois photographique ou éventuellement la pellicule qui nous permettrait d'arrêter l'image ou de l'inventer. Parce que la description tout à l'heure, elle était reprise pratiquement au mot selon la description de Saussure, mais quand il parle par exemple de Veracruz, et là c'est plutôt un lever de soleil, et il le décrit plusieurs fois. C'est une ville qu'il a beaucoup aimé, qu'il a beaucoup vécu pratiquement, parce que il la découvre avec quelque chose qui a un peu disparu aujourd'hui. Veracruz a beaucoup souffert de toute cette période que lui-même a traversée, c'est-à-dire ce côté un peu révolté du Mexique, ces guerres incessantes, le débarquement des Français aura lieu plus tard, il y aura ensuite les Américains. Enfin, c'est quand même la clé de tout le Mexique à cette époque-là, puisque nous avons dû arriver par bateau. Plus tard, on y arrivera en train depuis la capitale. Il y a 450 km entre Veracruz, qui est à zéro, et Mexico, la capitale, qui est à 2300 mètres d'altitude. Aujourd'hui, nous allons parler des terres chaudes et de cette région. Or, Veracruz, c'est un peu l'axe de tout le voyage. Quand vous parlez d'attente fébrile, c'est vraiment un endroit particulier. Et il décrit quelque chose que moi-même, je n'ai pas vraiment revu à Veracruz. C'est-à-dire ces clochers que l'on voit, ces dômes, ces escaliers un peu partout. Ce côté colonial existe beaucoup moins. Et puis, ce qui l'a surtout choqué, vous le disiez, Louis de Roguin, c'était cette façon beaucoup mieux construite, beaucoup mieux conçue. Par exemple, les maisons en créneau, avec ce côté très travaillé. Et le fort, il l'appelle d'ailleurs Ulloa. On l'appelle Ulloa aujourd'hui. Ce fort qui est resté comme ça coincé dans un port moderne, mais qui nous rappelle tout à fait ce qu'il a vu, c'est-à-dire une construction espagnole bien solide, comme on en retrouve à Porto Rico ou ailleurs, quand il faut se défendre avant de repartir avec les caravelles. Et il y a cette façon étrange de construire en oblique avec ces petits lanterneaux qui se trouvent dans les angles, un fort qui a beaucoup de solidité, il le décrit comme étant magnifique, et puis il reprend toujours des images naturelles, c'est-à-dire la mer, il la regarde comme personne, il la conçoit comme quelque chose de très naturel, elle est bleue, et elle est là de toutes parts, et il arrive dans des marais, il les décrit très bien. Et il y a une image extraordinaire quand il parle d'une bétarade magnifique. Il y a des hérons blancs, des bleus, des gris. Tout ça tombait en pluie. Il y avait des vols de pluvier, des cassiques, des bécassines, des aigles pêcheurs. On avait l'impression que ces oiseaux voulaient l'attaquer carrément ou carrément lui enlever son chapeau. Ça, c'est une image qui lui a fait perdre la tête, tout comme son cheval d'ailleurs. Quand il était sur un cheval et qu'il traversait les marais, il perdait la tête aussi d'ailleurs.
Thank you.
Gauguin, Claude Weber, un peu identifié au travers des lignes de cette écriture fine d'Henri de Saussure. Un ouvrage qui sort de l'ordinaire parce qu'il n'aurait pas dû être publié. C'est peut-être là où est l'avantage de la lecture. C'est qu'on rentre dans l'intimité de quelqu'un, et non pas seulement dans ses souvenirs scientifiques, mais un peu un flot à la fois de joie, de rancune, de difficulté, que ce voyage aux Antilles et au Mexique relate comme si on était dans la tête d'Henri de Saussure et qu'on se laisse aller à chaque moment d'un immense voyage, parce que 2 ans de voyage, c'est important, 66 semaines, si ma mémoire est bonne, c'est quand même quelque chose qui marque un homme. Et il a décrit des scènes comme celle de Veracruz, mais quand on évoque les terres chaudes du Mexique, il y a quelque chose qui suinte. Il y a immédiatement cette impression, quand on part comme cela de la côte et qu'on monte, il y a la première image, et j'ai essayé de l'évoquer tout à l'heure, en m'adressant à vous, Louis de Roguin, c'est cette première image qu'il a eue du bateau. Et je crois que ce qui est très sensible quand on arrive au Mexique, c'est cette ligne. Cette ligne incroyable qui est à la fois sable et cocotier, avec déjà cette impression de verdure intense. Et puis, là-haut, quelque chose qui nous accroche immédiatement, à travers une forme un peu étrange, presque conique. On a envie d'évoquer un peu le Fuji des grandes estampes du 19e japonais. Et on voit alors uniquement la cime, une cime totalement irréelle, solitaire. C'est la seule chose d'ailleurs que l'on voit lorsqu'on aborde le port de Veracruz, c'est le pic, le plus haut sommet du Mexique, le pic d'Orizaba. Quand on arrive dans cette région et qu'on marche avec des chevaux, donnez-moi un peu la description, Louis de Roguin, de la façon dont a été montée cette expédition, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se déplace, quelle est l'aventure sur le plan transport en général d'Henri de Saussure à travers cet ouvrage.
Le principal moyen de transport, c'était évidemment le cheval. À quelques occasions, ils ont fait des trajets en diligence, mais à cheval et à mule pour les bagages, c'était le moyen principal. Et l'ascension du pic d'Orizaba a été faite jusqu'à la limite des possibilités des chevaux, à dos de cheval et ensuite à pied, avec un ou deux porteurs. C'était toute une aventure parce que c'était son premier grand sommet. Il savait évidemment que le pic d'Orizaba était plus haut que le Mont Blanc, donc il était aussi très fier de monter plus haut que son grand-père ne l'avait fait.
C'est une histoire de famille.
Oui, exactement. Et en fait, c'était un grand malheur parce qu'il n'est pas arrivé au sommet, complètement épuisé par la montée, la différence d'altitude. Le fait qu'il n'avait rien mangé depuis 3 jours ou 2 jours parce que son guide avait oublié de prendre les provisions.
Claude Weber, si vous étiez l'accompagnant de Louis de Roguin sur cette expédition au pic d'Orizaba, on parlera un peu de la région du pic d'Orizaba parce qu'il faut la situer pour ceux qui nous écoutent. C'est vrai qu'on est parti de Veracruz et on est monté très rapidement à travers ce qu'on appelle la forêt de pluie, cette forêt étrange où on le verra par ses descriptions, il est complètement fasciné par le côté végétation, le côté faune et flore, bien sûr, et cette montée vers l'aridité d'un volcan qui finalement finit par la neige à 5600, si ma mémoire est bonne, ou en tout cas dans ces eaux-là, ça a dû être un moment très, très particulier. Là, c'est plutôt un challenge pour lui, c'est vraiment la volonté de refaire quelque chose d'important, ou est-ce que le naturaliste parle encore?
Le naturaliste parle avant tout, il voulait voir le sommet, récolter des échantillons, regarder au fond du cratère ce qui s'y passait. Accessoirement, il y avait le challenge. Mais disons, sa fureur de ne pas avoir atteint le sommet était plutôt liée au fait de ne pas pouvoir observer le phénomène géologique.
Donc cette idée scientifique, bon, on l'oublie un peu aujourd'hui, ça se fait toujours. On a des spécialistes vulcanologues, etc., qui ne font que cela et qui se font éventuellement poser par un hélicoptère à mi-hauteur s'il le faut. Mais à l'époque, on avait l'impression que tout était neuf. Il avait l'impression d'être le premier à observer ce genre de choses.
Oui et non, parce qu'en fait, on en revient à l'idée de départ de cette mission. C'était de confirmer ou d'infirmer les théories de Humboldt. Et en fait, ce qu'il voulait voir, c'est ce qui se passait dedans, dehors. Il faisait des relevés, il a fait un nombre de croquis extraordinaires, de coulées, de différences de qualité de pierre, de lave. Il a ramassé beaucoup d'échantillons qu'on n'a malheureusement pas retrouvés. tout était orienté sur cette idée de théorie des volcans.
Quand vous parlez de choses que l'on a retrouvées ou pas, est-ce que, à part les lettres que vous avez publiées, quel est le bagage de retour d'Henri de Saussure pour la ville de Genève ?
Pour la ville de Genève, ça a été les lettres, d'abord, avant tout. Et un miracle, la découverte d'une masse de documents quelques mois après notre intervention à la bibliothèque publique universitaire, la découverte dans les herbiers boissiers de pratiquement tous les documents qu'Henri de Saussure avait ramenés. Documents. Je ne parle pas de collections. Les collections, nous en avons au musée une partie, des oiseaux, des mammifères, chauves-souris. Apparemment, il a aussi envoyé du matériel à gauche, à droite. Il a eu une vie scientifique très active, très ouverte à l'étranger. Il a fait beaucoup d'échanges. C'est possible que ses collections
soient ailleurs. Quand on redécouvre un personnage comme celui-ci, il y a combien de temps que vous vous attelez aux lettres de Saussure ?
Nous les avons découvert il y a plus de 10 ans. Disons, la chose s'est faite doucement, au fil des possibilités. Disons, l'idée de publier ces lettres est venue après la découverte de la masse de documents. Et à ce moment-là, nous nous sommes dit, il y a quelque chose à faire. C'est tellement extraordinaire, c'est tellement riche. C'est très intéressant, ça apporte une vision du Mexique d'une époque tellement mal connue. Le Mexique de 1855, c'est après l'Espagne, c'est avant les révolutions.
Avant l'indépendance allemande, j'entends. L'époque de Juarez qui s'évoquera un peu plus tard dans les années 60 et 70. Donc 1860 et 1870. Quand vous évoquez ce matériel, en reprenant les lettres, on a envie de se replonger pour quelques instants dans cette région d'Orizaba. Orizaba est une très belle ville. Il y a aussi tout près cette impression d'être dans un jardin d'Éden, dans quelque chose qui, aujourd'hui encore, à Fortín de las Flores, voilà un beau nom, hein, le Fortin des Fleurs, on a encore aujourd'hui cette impression de tomber sur un Mexique de 1850. Si on sort un tout petit peu des sentiers battus, on va retrouver la rivière, on va retrouver ces échantillons, on va retrouver cette volonté qu'avait de Saussure d'aller plus loin dans la recherche de ce matériel qu'on a peut-être perdu, mais qu'il évoque très bien. Et il évoque aussi ces immenses forêts. Je crois que la forêt l'a beaucoup touché. Et il y avait cette description qui, pour lui, était hors réalité. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais vu, bien sûr. Il l'avait entendu ou lu par d'autres personnes, mais il fait une description de son pic d'Orizaba qu'il compare toujours à nos sommets, en particulier au Mont Blanc, avec un côté rosé, par exemple. J'ai rarement vu, d'ailleurs, le pic d'Orizaba comme cela. Mais son œil d'Européen, il a peut-être un peu de peine à s'habituer à cet immense... Il décrit ça comme un pain de sucre, mais en fait c'est quelque chose de presque parfait, comme cône. Et là, il le sent systématiquement au cours de la journée. Le matin, on se lève, on imagine le campement qu'on défait petit à petit, on recharge les mules, le cheval commence à piaffer, et la montagne disparaît dans des vapeurs. Il dit toujours que la base est bleue et que la montagne se fond véritablement dans le ciel. Et ça, c'est très curieux. C'est aussi la première image qu'on a de ce pic d'Orizaba, c'est de ne pas voir sa base, de l'ignorer complètement parce que la couleur est tout à fait identique. Et il croit toujours apercevoir comme un nuage. Et quand on a remarqué que c'était une erreur, finalement, on sait que c'est le volcan avec ses dimensions gigantesques. Mais il nous dit toujours que ça ne ressemble pas aux Alpes de la Suisse ou de la Savoie, qui sont peut-être plus hardis, plus féroces dans leur forme et dans leur découpe, en tout cas plus variées. Et ces teintes qu'il remarque toujours, ça il est très délicat dans sa façon de décrire le paysage aux différentes heures de la journée, il est aussi touché par le côté des arbres. Des arbres qui sont au pied de ce volcan, qui sont gigantesques. Et il donne même la dimension de chaque chose. Il dit par exemple que quand on voit la proportion du volcan qui est 5 à 6 fois plus haut que tout le reste des montagnes et des différents petits volcans qui l'entourent, il est touché par cette atmosphère transparente. Et le matin, il voit le pic qui se dessine dans le ciel sur une ligne beaucoup plus sombre, ce sommet neigeux qui est toujours un peu rouge, enfin légèrement. Il y a 8 heures, ces vapeurs qui ont rendu l'air si opaque que la montagne elle-même disparaît, quoique le ciel paraisse toujours au Mexique parfaitement pur. Thank you. Claude Weber, est-ce que quand on est Henri de Saussure, on a un rien d'hautain dans sa façon d'observer les choses dans un pays étranger? J'ai sans arrêt évoqué la Suisse à travers ses lignes. Est-ce qu'il est quelqu'un qui est capable de se baigner dans la localité du Mexique, dans le côté vraiment unique du Mexique?
Difficilement. C'est un Genevois dans l'âme, dans l'éducation, dans la culture. Arrivé au Mexique, il y a un blocage. Il ne va pas goûter avec plaisir aux fruits exotiques. Il compare ses montagnes et il dit elles sont belles, mais nos Alpes sont encore plus belles. Il découvre par exemple le lac de Pascuaro et il dit oui, Humboldt a trouvé ce lac très beau, mais notre Léman est tellement plus beau. Quand il parle de Pascuaro, il dit oui, ça ressemble à ton nom.
Est-ce qu'il est chauvin, au sens où on l'entend? Ou est-ce que c'est simplement parce qu'il a besoin sans arrêt d'un point de comparaison?
Je pense que comme il adresse ses lettres à sa famille, il faut absolument trouver des raccourcis pour que sa famille puisse découvrir des comparaisons.
Je crois que c'est ça surtout, c'est que les autres comprennent ce que lui voit de nouveau.
Absolument, quand il parle d'une rivière comme le Panuco, Rio Panuco, il compare la transparence de l'eau avec la transparence de l'eau du Rhône à la Coulouvrenière.
Donc quand vous parlez d'un Rio Panuco, il faut se situer dans l'endroit, parce que c'est vrai que par rapport à la Coulouvrenière, on n'y est pas tout à fait. C'est la rivière qui est pratiquement la plus au nord du Mexique, qui est du côté de Tampico. Tampico, ça évoque le pétrole aujourd'hui et des zones assez, assez curieuses. Mais c'était déjà un voyage très intrépide, parce que c'est une zone assez difficile. Et ça ne devait pas être facile de traverser le pont de la Coulouvrenière du côté de Tampico.
Absolument. En fait, il a fait un voyage assez extraordinaire sur des routes complètement défoncées, à une époque de pluie.
Mettez-moi la température en même temps pour qu'on y soit.
La température, je ne sais trop. Je crois qu'il avait froid au partant de Mexico et chaud en arrivant.
Ah ça oui.
Parce qu'en fait, on passait des terres froides aux terres chaudes et retour aux terres chaudes. Il découvre Tampico, ville assiégée, de nuit, sur un canot. Avec le silence parfait, la peur de se faire attraper par une armée ou par l'autre. Il essaye d'entrer en douce à Tampico. Il transporte un révolutionnaire sur son bateau qu'on lui a fait embarquer presque de force sur ce trajet. Et finalement, il arrive de nuit dans cette ville. Finalement, il se fait canonner, semoncer, et il se retrouve finalement en ville. Donc, il a traversé les lignes.
C'est tout à fait le pont de la Coulouvrenière. Ouais. Mais quand je pense à Tampico aujourd'hui, c'est curieux, on a la même crainte, on a les mêmes... je ne m'arrête jamais, je ne dors jamais à Tampico. On sent encore que c'est une ville qui est à la fois tropicale, qui a gardé ce côté un peu exacerbé d'un Mexique colonial, c'est-à-dire il y a quelque chose de tropical, je le disais, mais c'est une ville à part, c'est une ville qui est restée complètement en dehors du Mexique, peut-être trop sur les côtes, trop au nord, et là quelque chose de qui fait peur. La région aussi sur le plan végétation est assez curieuse, il faut descendre un peu plus bas du côté d'Eltarine et des grands sites archéologiques avant d'arriver à Veracruz pour être à l'aise. Mais Tampico, on y passe, mais on n'a vraiment pas envie de s'arrêter. Ça ressemble un peu au Tampico d'Henri de Saussure.
Henri de Saussure, en fait, a vécu des heures difficiles dans la région de Tampico parce qu'il a attrapé les fièvres, le vomito, il croyait mourir, en fait. Et lorsqu'il a pu prendre son voyage, il était heureux de retrouver Veracruz, enfin, après avoir fait toute la côte, de retrouver Veracruz en bon état, enfin, en bonne santé.
Parce que involontairement, on a butiné déjà maintenant, on continuera à le faire à travers ces moments de voyage. Il est arrivé à Veracruz, il est monté dans les hautes terres, il a visité, vous étiez au lac de Pátzcuaro qui se trouve à plusieurs centaines de kilomètres à l'ouest de Mexico, là où vous avez plutôt une région avec des pins qui ressemblent à des terres jurassiques. On a l'impression quand on passe par exemple le col de Mil Cumbres d'être dans un infini de Jura un peu plus forcé, un peu plus grand, un peu plus large, avec des vision à plusieurs dizaines, voire même 100 kilomètres. Et ensuite, il est revenu sur ses pas, il est descendu de nouveau sur la côte et vous citiez Tampico, c'est déjà un peu la fin de son voyage, en fait.
La fin du voyage a été la découverte du volcan tout au sud, le volcan San Andrés. Et en fin de compte, il est revenu à Veracruz pour quitter définitivement le Mexique sur sur la Nouvelle-Orléans. Mais lors de son voyage entre Tampico et Veracruz, il lui est arrivé une aventure tout à fait amusante. Il a traversé la lagune de Tamiawa. Il avait décidé, lui, de prendre la voie fluviale, enfin la voie de la lagune, alors que ses bagages et une partie de ses compagnons prenaient les chemins défoncés.
Avec les mules.
Et il a essuyé une tempête absolument épouvantable, à la limite d'embarquer dans son droit chrétien, comme il le dit, son canot. Il atterrit dans une île absolument incroyable, où il règne un homme au milieu d'un troupeau de milliers de bêtes, de veaux, vaches, et une flore, une faune surtout incroyable. Il suffisait d'appuyer sur la gâchette du fusil. Pour lui, la chasse était un grand plaisir. Pour Henri de Saussure, il avait un cerf. Enfin, c'était quelque chose d'extraordinaire, cette île.
Un jardin d'Éden pour chasseurs.
Un espèce de jardin d'Éden qui en même temps lui a beaucoup plu. Et d'un autre côté, il était absolument effaré du manque de dynamisme de l'homme qui vivait sur cette île, qui était presque apathique, qui laissait ses bêtes mourir de soif ou de faim aux périodes de sécheresse, et qui voyait ça avec beaucoup de philosophie, alors que lui avait déjà fait des calculs de rendement, de veaux, de transport, de viande vendue à gauche, à droite. C'était quelque chose de très étonnant.
Calvin était resté à quelque part, les banques commençaient à monter, l'économie suisse se préparait, mais c'est vrai que ça a été la part la plus difficile d'Henri de Saussure, c'est d'accepter cette vie, cette façon de fonctionner qu'avait tout Mexicain au moment où il y est allé, c'est-à-dire être l'autre était parfois un peu difficile pour Henri de Saussure. Louis de Roguin, quand on parle d'air tropical, quand il parlait tout à l'heure, Henri de Saussure, de cette montagne, de cette forêt qui commence du côté de Orizaba, avec le côté vierge, le côté impénétrable, là on, immédiatement on a des images en tête. Hein. D'abord, depuis quelques minutes, autant dans la tempête que Claude Weber évoquait, ou même lors des campements, on sent qu'il fait 35, 40, 45 degrés, qu'on est dans un milieu extrêmement étrange. Dans la forêt vierge, il fait peut-être un peu moins chaud lorsqu'on est sous couvert, parce que quand il évoque ces arbres immenses et qu'il dit qu'ils commencent seulement à se ramifier à partir d'une centaine de pieds de hauteur, on est dans un tunnel assez étrange. Et là, il observe tout, il voit l'acajou, il voit ce bois rose, il répertorie ces centaines d'espèces gigantesques qui sont tous groupés comme cela ensemble, et sur les branches, ce qu'il touche, bon, il dit que c'est hors de la portée d'un fusil, c'est pour montrer à quel point c'est distant. Il y a des parasites de figuiers, il parle aussi de ces arbres entiers qui poussent sur les arbres, il y a même des cactus, il voit des orchidées immenses, et ces lianes avec des feuilles vertes comme le lierre, hein, avec la même forme, disons, qu'une feuille de lierre. Mais alors, la différence, c'est qu'elles sont grandes comme des assiettes. Ça, ce sont des descriptions très intéressantes, et on voit qu'il les envoie à quelqu'un qui ne connaît pas la forêt vierge. Et il parle aussi de cette façon de grimper à l'intérieur des arbres, jusqu'aux limites des branches les plus élevées. Et il y a des longueurs absolument disproportionnées pour toute cette végétation. Et tout cela retombe ensuite jusqu'à terre. Il y a un berceau de verdure, des fleurs rouges, des fleurs jaunes. Il y a aussi... C'est quelqu'un qui était très touché par le parfum de ces fleurs délicates. Il nous parle, et là nous sommes dans la région où elle va pousser, elle va même faire la fortune du Mexique, la vanille, la salsepareille. Et il va évoquer sous le feuillage ces étranges plantes. Et là, immédiatement, il y a l'image de la fougère arborescente. Quand on s'abrite pour la première fois sous une fougère extraordinaire, on est très touché par cela. Il y a des arbustes épineux, il y a des plantes herbacées. Vous voyez qu'involontairement, dès qu'il se perche sur un bloc de pierre et qu'il a cette possibilité d'observer le tout, il est complètement pris par cette frayeur de cette verdure infinie, et il comprend surtout que on pourrait rester là des journées entières. Là, je crois qu'il a plus d'aptitude, Louis Droguin, à se fondre avec la nature qu'avec les habitants du Mexique.
Je crois qu'il est beaucoup plus proche de la nature sauvage, effectivement, et aussi bien comme observateur que comme chasseur. Ces deux facettes de son caractère naturaliste sont les deux mises en valeur dans ses lettres. Et à plusieurs reprises, il est fasciné par la richesse des espèces d'oiseaux. Il peut tirer dans tous les sens et voit les oiseaux qui retombent en pluie.
Ça, c'est pour vous qu'il les tire.
Sans pouvoir les récupérer.
C'est ça, oui.
En forêt, il en récupère un certain nombre. François Sumicrast était en fait son employé pour empailler les oiseaux, si possible, au fur et à mesure qu'il les tirait.
Donc on faisait la taxidermie immédiatement
Sur place, mm-hmm. Oui, le soir en tout cas.
Je vois très bien la petite boucherie sympathique sous le campement ou dans l'hacienda.
Henri de Saussure écrivait ses lettres pendant que Sumicrast préparait les oiseaux et que Marc Grosjean installait le campement pour le souper la nuit.
Est-ce qu'on a des nouvelles du jardinier?
Non.
Pas du tout.
Je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu.
Et dans le voyage lui-même, il est présent ou il en parle de temps à autre?
Il en parle très souvent parce qu'il servait de domestique. Donc c'était un tout jeune homme, je pense plus jeune que de Saussure. Mm-hmm. Et c'est lui qui devait battre les mules, préparer le repas, installer les lits.
Donnez-moi la nuit la plus confortable d'Henri de Saussure en terre chaude. Est-ce qu'il a été accueilli? Est-ce qu'il a eu des lettres de recommandation? Ou est-ce que votre campement est systématiquement à quelques mètres des mules dans cette humidité constante?
Pendant tout son voyage, il était bardé de lettres de recommandation au point qu'il n'a sûrement pas tout utilisé. Et il a trouvé des campements très mal équipés où il dormait quasiment couché par terre. Et d'autres, ils pouvaient s'installer chez des gens, ils trouvaient un bon lit et de la nourriture, enfin un repas convenable.
Ça, il nous le fait savoir.
Oui, bien sûr.
Il était très sensible à ce côté confort.
Très.
Donc il était resté très, très genevois, bourgeois dans son voyage, ou est-ce que vous pensez...
Très européen, disons, homme civilisé dans un pays sauvage.
Il y aura un peu de Samson Mom au moment où on découvre à la façon anglaise des terres nouvelles. C'est-à-dire cette distance est restée jusqu'au bout. Est-ce que quand on ira la prochaine fois que nous nous rencontrerons, Claude Weber et Louis Droguin, est-ce qu'en terre froide, on verra quelqu'un qui s'acclimate mieux, justement parce qu'il y a ressemblance avec notre Suisse, à la fois aux gens et au territoire?
Il trouvera plus facilement des contacts, plus de gens civilisés, prêts à l'accueillir, et surtout échanger des propos scientifiques, échanger des collections et parler d'histoire naturelle.
Donc on rentrera dans cette deuxième partie dans le monde d'un Henri de Saussure qui cherche, qui fouille et qui essaye de ramener un maximum de choses. C'était la mode en fait, de remplir ses caisses afin de les ramener chez soi, tout comme on envoyait presque tous les jours, en tout cas avoir envie d'envoyer presque tous les jours une lettre à sa famille, écrite toujours avec cette plume fine, avec un petit croquis de temps à autre. Ouvrez le livre, vous verrez que le voyage aux Antilles et au Mexique n'est pas un voyage ordinaire. Nous avons touché peut-être quelques journées de ce voyage. Nous avons encore 60 et quelques semaines à vivre ensemble.